Bonjour à chacun, bonjour en tout particulièrement à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Le groupe de louanges nous a rappelé que notre Dieu est grand, plein de richesses, plein de bonté, plein de promesses, et c'est vrai. Et c'est vrai que le message de ce matin fait partie de cette série de messages sur les promesses que Dieu a en réserve pour nous. Et je vous invite à nous arrêter ce matin sur un sujet qui n'a pas été abordé depuis longtemps dans l'Église, le sujet des dons et de la libéralité. Si Clément, tu peux nous mettre la première diapo, merci. Je vous invite à remettre ce moment à notre Dieu par la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rappelles ce matin que tu es grand. Tu es au-dessus de toutes choses, c'est vrai. Mais tu nous aimes, tu désires pour nous le meilleur et je te remets ce moment afin que ce soit toi qui le bénisse, afin que ce soit un moment vraiment utile pour chacun, pour ton Église, pour se rapprocher de toi, pour te laisser toujours plus de place dans chacune de nos vies. Amen. C'est vrai que ce sujet de la libéralité est important, moi je dirais pour plusieurs raisons. D'une part, c'est vrai, il y a plein de promesses qui sont en lien avec le fait de donner. Ce sujet trouve donc bien sa place dans cette série sur les promesses. Mais d'autre part, donner librement à notre Dieu nous aide à le laisser, lui, notre Dieu, au centre des priorités de notre vie. Et c'est cela qui est important. C'est cela qui est important, que notre relation avec notre Dieu soit et reste le centre de nos priorités dans un cadre d'amour et de liberté, et que nous ne dépendions que de lui pour tous les aspects de notre vie, même les aspects matériels. Mais attention, il n'est pas forcément sage de donner n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Dieu nous donne des règles, des modes de faire afin que nous nous épanouissions aussi dans la libéralité et qu'il puisse répandre sur nous ses bénédictions. C'est dans 2 Corinthiens 9 qu'on lit ceci. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. » Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournisse et vous multiplie sa semence et qu'il augmente les fruits de votre justice, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, donc par l'intermédiaire de Paul, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ce sujet de la libéralité est aussi un sujet qui est abordé de très nombreuses fois dans la Bible. C'est vraiment un sujet auquel sont rattachés plein de promesses. Malachie nous montre que Dieu promet la bénédiction en abondance si le peuple hébreu change son attitude et s'il se remet à pratiquer les dons et les offrandes. Alors juste pour donner le contexte du texte que nous allons lire, qui est dans Malachie, le peuple de Dieu, enfin, une partie était retournée en Israël, mais ils s'étaient écartés des préceptes de Dieu et de sa loi et surtout de la proximité qu'ils devaient avoir avec leur Dieu. Et c'est là que, par la voix de Malachie, Dieu leur dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites « En quoi devons-nous revenir ?» Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais il y a aussi Paul qui nous rappelle les paroles de Jésus et qui nous dit, c'est dans Actes, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles » et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné une multitude de personnes qui sont venues l'écouter, et il leur a dit, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Dans les premiers chapitres des Proverbes, Salomon donne des conseils aux jeunes. Et là, on voit qu'il y a aussi plein de bénédictions. Il donne ses conseils aux jeunes comme s'ils étaient ses enfants. Il recommande clairement aux jeunes de donner à Dieu comme la loi le demande. Et il dit clairement que les dons faits à Dieu sont gages de bénédictions matérielles. Proverbe 3, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » C'est vrai qu'il y a encore dans la Bible beaucoup de bénédictions qui sont en lien avec les dons et la libéralité. Cependant, la question des dons et offrandes nécessite d'être pratiquée sur la base d'une bonne connaissance biblique. Il y a aussi des écueils à éviter. C'est vrai que cette réalité des bénédictions qui découle de nos dons pourrait nous faire penser que les bénédictions sont données en vertu de ce que l'on a nous-mêmes donné à Dieu. Un peu comme si ces bénédictions étaient méritées par ce que l'on a pu lui donner. On pourrait penser que ce que l'on donne à Dieu est un petit peu comme une semence qui va porter du fruit par la bénédiction qu'elle doit nous rapporter. Et pourquoi pas avec un rapport de démultiplication encore, de 1%, 1/60 ou 1/30, comme c'est indiqué dans la parole du semeur. Il me semble à moi que croire que Dieu nous est redevable en proportion de ce que nous lui donnons n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que non seulement c'est contraire à l'enseignement biblique de la libéralité, mais ce n'est pas juste parce que Dieu est Dieu. Il est au-dessus de toute chose, au-dessus de nous. Il ne nous doit rien. Il ne nous est donc pas redevable de quoi que ce soit, mais cependant, nous recevons tout de lui. C'est aussi une question de point de vue. On fait une petite parenthèse là. La bonne compréhension de la libéralité est aussi une question de point de vue. Tiens, une question qui va peut-être nous bousculer ce matin. Lorsqu'on parle de libéralité, est-il question de la quantité d'argent que je donne à Dieu ? Ou est-il question de l'argent de Dieu que je garde pour moi? Ça, c'est une question de point de vue, donc. Je répète, lorsqu'on parle de libéralité, est-il question de la quantité d'argent que je donne à Dieu, donc de l'argent que j'ai gagné avec mon travail? Ou est-il question de l'argent de Dieu, l'argent que j'ai reçu de Dieu, que je garde pour moi, donc celui que je ne donne pas? En d'autres termes, considérons-nous les dons et les offrandes comme une bonne œuvre que nous faisons à notre Dieu, ou considérons-nous nos dons et nos offrandes comme une part de l'ensemble de ce que nous recevons de Dieu, que nous lui rendons, et que nous ne gardons donc pas pour nos besoins personnels? C'est ça la question de point de vue. Dans ce sens-là, nous pouvons considérer que Dieu nous place comme des gestionnaires des biens qu'il met à notre disposition. On pourrait aussi dire que Dieu nous met à disposition des biens. Ensuite, il nous donne la sagesse pour les gérer. Et s'il nous semble que nous manquons de sagesse, l'apôtre Jacques nous invite à le lui demander. Et nous dit qu'il la donne si on lui demande la sagesse. Nous avons donc une responsabilité dans la façon comment nous gérons ce que Dieu met à notre disposition. Je vous invite à lire à ce sujet la parabole des talents dans Matthieu 25 ou Luc 19. On ne va pas la lire maintenant parce que le temps est court et le sujet est long, mais c'est vraiment un sujet intéressant puis une parabole qui va dans ce sens aussi. Revenons à la question des écueils à éviter. La Bible nous montre, par certains exemples, comment le fait de mélanger l'argent et la religion peut conduire à un culte commercialisé, à un trafic. Et Dieu ne fait pas de commerce. Il ne fait pas non plus de trafic. Rappelons-nous comment Jésus a purifié le temple. C'est en Jean 2, les versets 14 à 16, Jésus trouva les vendeurs de bœufs. Donc l'histoire se passe dans le temple. Jésus trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Vous imaginez un petit peu des brebis, des bœufs dans le temple, quel bazar. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » On peut aussi dire qu'il y a abus quand le don a d'autres motivations que l'amour. C'est vrai que quand le don est versé avec d'autres motivations que l'amour, l'amour qui nous unit à notre Seigneur, quand le don est calculé et devient en quelque sorte le paiement en vue d'une acquisition. Et pour ça, on a dans la Bible l'exemple de Simon le magicien. Ça se passe dans les actes. Et c'est vrai que cet exemple est caractéristique de cette dérive. On va lire dans Actes 8, 2-3 versets. « Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Dieu donne gratuitement et il accepte nos dons volontaires, mais Dieu ne fait pas de commerce. Avec Dieu, notre relation ne peut pas être donnant-donnant, parce que nous recevons tout de lui. Et ce que nous lui donnons ou lui rendons ne peut être que la manifestation de notre reconnaissance et de notre amour pour lui. Mais il y a aussi abus quand la libéralité est présentée comme devant être nécessairement accompagnée de bénédictions matérielles. Là, je suis un petit peu désolé, je n'ai pas réussi à compresser plus la phrase. Je la relis, ce n'est pas forcément simple. Quand la libéralité est présentée comme devant être nécessairement accompagné de bénédictions matérielles. C'est-à-dire que lorsque c'est présenté que les bénédictions matérielles doivent automatiquement découler de nos dons. Lorsqu'il est question des dons de Dieu, il n'est jamais question de contrepartie. Notre Dieu n'est pas un Dieu de commerce ou de troc, on l'a déjà dit. Les seules conditions au salut sont le fait de croire en la toute-puissance de l'œuvre de Jésus-Christ, de recevoir simplement le salut, c'est-à-dire de se l'approprier et de changer d'attitude. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore dans le livre des Actes, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. » Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et c'est vrai que de la même façon que le salut s'obtient sans contrepartie financière, les bénédictions que nous recevons de Dieu sont reçues dans une relation d'amour et ne sont donc pas conditionnelles à ce que nous donnons à Dieu. Mais je vous invite maintenant à voir un petit peu dans la Bible des dons qui ont été faits, des exemples de dons dans différents contextes. C'est vrai que le sujet des dons et des offrandes, il se trouve dans toute la Bible Et il est important de bien comprendre dans leur contexte ces exemples de dons et d'offrandes. Ensuite, il est important de vivre notre libéralité dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est John Alexander qui se plaisait à nous dire à l'école biblique de Genève, un verset sorti de son contexte devient un prétexte. D'où l'importance de repositionner les choses dans leur contexte. Alors, on va aborder ici trois contextes différents qui sont dans l'ordre chronologique dans lequel ils se sont déroulés. Tout d'abord, avant la loi. Ensuite, selon la loi ou l'ancienne alliance. Et ensuite, dernièrement, selon la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Avant la loi, c'est vrai que depuis le début de l'humanité, les hommes ont fait des offrandes à leur Dieu. Et l'exemple de Caïn et d'Abel nous le montre et nous montre aussi que l'attitude dans laquelle est fait un don est très importante parce que cette attitude donne toute la valeur au don qui est fait. Nous lisons dans Genèse 4, c'est donc au tout début de la Bible, les tout premiers hommes qui ont habité sur la terre. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Il avait un air sombre, il était triste. Et nous savons, par les versets suivants, que l'irritation de Caïn l'a conduit à devenir le meurtrier de son frère Abel. Mais c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous révèle aussi que, qui nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a eu une différence. Et on lit dans Hébreux 11, « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. » C'est quand même incroyable ça que Abel offrit un sacrifice par la foi. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Abel et Caïn, les premiers enfants qui naissent sur la terre, enfants d'Adam et Ève, Abel fait un don, il offre un sacrifice, et il offre par la foi. Mais par la foi en quoi? Il offre par la foi, cette foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il pouvait pas voir le résultat de la foi, il ne pouvait pas voir quel était cet accomplissement de la foi. Il était tellement loin de Christ, lui. Abel a offert à Dieu un sacrifice par la foi en l'œuvre de Christ, œuvre lointaine pour lui, mais œuvre dans laquelle il plaçait déjà, peut-être sans le réaliser vraiment, toute son espérance. Et c'est ça qui a fait la différence entre le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Caïn. Et pour nous aussi, sachant donner à Dieu dans une attitude d'humilité, dans une attitude de reconnaissance, de dépendance, de foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, mais surtout dans une attitude de toute, mais surtout pas dans une attitude de toute suffisance ou de propre justice, comme c'était vraisemblablement le cas pour Caïn. Nous voyons ensuite chronologiquement l'exemple de Noé. Noé qui, après être sorti de l'arche, offre à Dieu un sacrifice de reconnaissance de tous les animaux purs. De tous les animaux purs, ce n'était pas trois ou quatre. Hein. Donc, juste pour le contexte, dans l'arche, il y avait un couple de tous les animaux impurs et sept couples de tous les animaux purs. Et à la sortie de l'arche, Noé a offert en sacrifice un couple de chaque animal pur. Et qu'est-ce qui s'est passé après que Noé ait offert ce sacrifice? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a été touché. Dieu a été touché par ses sacrifices, et après avoir été touché, il s'est engagé. On lit en Genèse 8, « L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » C'est quand même incroyable ça, de voir que, après ce sacrifice que Noé a fait, Dieu a été touché, Dieu s'est engagé, même si certains disent que la météo se détraque, ça n'empêche pas qu'il y a toujours l'été, l'hiver, la nuit, le jour, le chaud, le froid. Puis ensuite, nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham, alors juste pour replacer un petit peu le contexte, Abraham apprend que lors d'une bataille entre des rois de la région, Abraham était déjà dans le pays de Canaan à l'époque, et puis il apprend que lors d'une bataille entre les rois de la région, son neveu Lot a été déporté parce que Lot habite Sodome et que le roi de Sodome fait partie des rois qui ont perdu la bataille. Quand il apprend cela, Abraham qui est seul avec ses troupeaux, ses serviteurs, bon, c'était quand même des troupeaux, des serviteurs, ils n'étaient pas trois ou quatre, mais enfin, quand Abraham a appris ça, il a été combattre les quatre rois qui ont gagné, et il est revenu après avoir délivré son neveu Lot. C'était pas rien quand même, hein. Il avait quand même la foi, Abraham. Et c'est alors, lorsqu'il est revenu victorieux de cette bataille, qu'il a délivré Lot, c'est alors qu'Abraham reçoit la visite d'un roi particulier. On voit ça dans Genèse 14. Melchisédek, roi de Salem, alors ne cherchez pas la ville de Salem, hein. Salem ça veut dire simplement paix. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Et c'est la lettre aux Hébreux, de nouveau, qui nous apprend qui est Melchisédek. Et nous lisons au début du chapitre 7, ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais, rendu semblable au Fils de Dieu, il sera prêtre pour toujours. Melchisédek, vous l'avez bien compris, est une préfiguration de Christ. Melchisédek a béni Abraham, et Abraham lui a donné la dîme de tout le butin rapporté de sa victoire sur les rois. Et ensuite, cette pratique de l'offrande de la dîme continua à se pratiquer dans la famille d'Abraham, de père en fils. C'est ainsi que son petit-fils, Jacob, fit plus tard cette promesse à Dieu : Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ces décisions d'Abraham, de Jacob et même d'Abel et de Noé étaient purement volontaires. C'était un libre engagement de leur part pour témoigner à Dieu leur reconnaissance et leur foi. Et puis voyons maintenant quelques exemples, ou disons plutôt quels étaient les modes de fonctionnement selon la loi ou l'ancienne alliance. C'est donc au début du voyage du peuple hébreu lors de son retour du pays d'Égypte vers le pays promis que Dieu a donné sa loi à Moïse. La loi de Moïse contient, nous le savons tous, les 10 commandements, mais elle contient aussi toute une série de règles à respecter. Et ce n'est pas rien ces règles à respecter, il n'y en a pas un petit peu. Les règles et les préceptes de la loi sont détaillés dans le livre de Lévitique. Tout le livre de Lévitique y est consacré. Un livre entier avec 27 chapitres consacrés aux règles de fonctionnement de la loi données par Dieu au peuple hébreu par Moïse. La loi instaure ce qu'Abraham et Jacob ont pratiqué librement comme une règle à respecter. C'est l'instauration de la dîme. Chaque Hébreu doit donner à Dieu un dixième de ses revenus. Cette dîme est utilisée pour assurer le revenu des Lévites et le fonctionnement du tabernacle. Mais il y avait aussi, en plus de la dîme, d'autres dons et offrandes décrits dans la loi. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez compliqué. Mais il n'y avait pas que la dîme, il y avait aussi des offrandes volontaires, il y avait aussi toutes sortes de dons et de sacrifices en plus de la dîme. Et on voit ça donc dans Lévitique au chapitre 27. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur dix, de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. Donc, les dîmes des revenus de la terre et les dîmes des animaux. En imposant un pourcentage pour les dons, la loi supprime l'aspect volontaire du don comme il était pratiqué avant la loi. La loi n'empêche cependant pas qu'il y ait d'autres dons ou offrandes volontaires en plus. Mais de par son principe de légalité, la loi annule ce côté volontaire du don puisqu'il est justement légalisé. S'il est légalisé, il est plus volontaire. La police n'aurait pas dit mieux. La loi peut donner en revanche, et c'est là que c'est pernicieux, la loi peut donner en revanche un semblant de conscience pure lorsqu'une ou plusieurs règles qu'elle impose sont respectées. À ce sujet, David avait bien compris quelle était sa place à lui, David, par rapport à celle de Dieu. Et nous lisons dans 1 Chronique 29, David qui dit « Qui suis-je en effet ?» Donc c'est vers la fin de la vie de David. Hein. « Qui suis-je en effet ? Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Et là, c'est intéressant de voir que David avait compris de la bonne façon quelle était sa place par rapport à Dieu. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi au peuple juif dans le désert ? Ça, c'est une bonne question. C'est Galate qui répond à cette question. Galate 3, pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à cette loi. La loi a donc été donnée pour conduire à Christ. La loi montre les exigences du Dieu trois fois saint. Elle montre des exigences impossibles à réaliser pour l'homme, afin de conduire l'homme à l'œuvre de Christ, qui est basée non pas sur la loi, mais sur la grâce, et non sur les hypothétiques capacités de notre propre justice. En Romains 3, nous lisons « Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi a été donnée pour amener à Christ. Cependant, pour celui qui ne se laisse pas conduire à Christ par elle, la loi devient une condamnation. Regardons maintenant comment ça se passe dans la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que ça nous concerne plus parce que nous vivons, c'est vrai, maintenant dans la nouvelle alliance. Et je vous invite à lire l'histoire de l'offrande d'une pauvre veuve, c'était du temps de Jésus, et comment est-ce que Jésus comprenait les dons. On lit cette petite histoire dans Marc 12. C'est une histoire qui se passe aussi dans le temple. Jésus était assis vis-à-vis du tronc, donc le tronc, l'endroit où les gens mettaient leurs dons. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et là, c'est intéressant de voir que Jésus avait souvent un regard qui déroutait ses contemporains. C'est le cas ici. Jésus ne regarde pas à la quantité de ce que les gens mettaient dans le tronc, comme ce que le faisaient, j'imagine, la plupart des gens qui vivaient dans le temple ou autour du temple. Mais il regarde à ce qu'il reste aux personnes qui donnent pour vivre. Au lieu de regarder à la quantité de pièces d'or qui sont mises dans le tronc, il regarde à ce qui va rester dans la poche des gens qui mettent. Et ça, c'était nouveau. C'était nouveau parce que c'était tout à fait contraire au principe de fonctionnement de la loi. Et les Hébreux, ils respectaient la loi. Disons, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de la respecter. Donc le regard de Jésus à ce moment-là était tout à fait nouveau et cassait un petit peu les habitudes de l'époque. Et nous lisons dans Hébreux 7 toujours, il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Colossiens 2, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. La tête, celui qui est la tête, c'est Christ. C'est pourtant d'elle, de Christ, que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé, par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Mais alors voilà maintenant une nouvelle question. Parce qu'avec le regard de Jésus qui va à l'envers des habitudes, voilà maintenant une nouvelle question. Combien donner? Ça, c'est aussi une bonne question. Lisons une recommandation que Paul donne aux Corinthiens. Concernant des dons pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin. À l'époque, c'était la famine à Jérusalem et les chrétiens étaient dans la famine, ils avaient besoin. 1 Corinthiens 16, que chacun de vous, le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Et là, il faisait référence à la manne qui était ramassée dans le désert par le peuple hébreu. Paul recommande de commencer par mettre de côté ce que l'on veut donner, donc de donner avec méthode. Paul nous apprend aussi à donner avec équilibre. Cependant, David nous montre un autre aspect dans une situation tout à fait particulière. Il est dit dans 1 Chronique, « Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » Ça peut aussi nous faire réfléchir. Mais que donner? Que donner? C'est-à-dire que ce matin, on a beaucoup parlé de dons en argent, mais dans la mesure où on a compris que l'on garde pour soi ce qui correspond à nos besoins, de manière équilibrée, avec maturité, les dons ne se limitent pas à l'argent, mais ils concernent aussi tout ce que nous recevons de Dieu, notre temps, nos biens, nos compétences aussi. Et comment donner? La question du comment donner est tout aussi importante que la question du combien donner ou combien garder. C'est aussi une question de point de vue. Alors, on ne va pas détailler parce que l'heure tourne et puis le sujet est trop vaste, mais je ne pouvais pas passer sous silence ce point. Tout d'abord, donner avec joie. En plus de donner librement, Paul recommande de donner avec joie. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais bien plus encore, la Bible nous recommande de donner avec cœur, avec zèle, avec soin, avec bonne volonté, sans avarice, mais avec discrétion. Mais surtout, Paul montre l'exemple des églises de la Macédoine, dans lesquelles ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Voilà une règle d'or de la libéralité. Se donner soi-même ou se consacrer d'abord au Seigneur et ensuite lui demander de nous révéler l'engagement qu'il a en réserve pour nous. Et en conclusion, vous l'avez compris, Dieu ne nous demande pas de nous acquitter en donnant une certaine partie de ce que nous recevons de lui. Tout lui appartient et nous avons à faire bon usage de ce qu'il nous confie. Les dons financiers et autres, pratiqués selon le plan de Dieu, sont le reflet de notre dépendance de sa personne. Ils sont aussi notre façon de lui manifester notre amour. Ils sont un des canaux que Dieu utilise pour déverser sur nous sa bénédiction. Ce libre engagement fait partie du processus de maturation spirituelle. On lit dans Actes 20, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Nous voyons aussi en Romains 12, l'apôtre Paul qui nous dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne, le fasse avec générosité. » C'est intéressant de voir que dans ce passage, Paul met au même niveau ses différents services dans l'Église avec le fait de donner, et il recommande de donner avec générosité. Je vous souhaite d'être vraiment béni dans votre libéralité et dans tout ce qu'elle entraîne pour votre équilibre, pour votre enrichissement, pour que vous soyez fortifié en Christ. Et je vous invite à un petit temps de réflexion, après quoi je terminerai par la prière. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu t'es donné le premier. Sois loué, Seigneur, parce que c'est vrai que nous recevons tout de toi. Merci parce que tu établis avec nous une relation d'amour, une relation qui nous demande d'être responsables. Et c'est vrai que nous voulons te demander ta sagesse, car nous en avons bien besoin. Mets dans nos cœurs, Seigneur, tes repères, afin que nos attitudes de vie soient une réponse à ton immense amour. Sois loué, Seigneur, parce que tu désires que tout dans notre relation avec toi soit basé sur l'amour. Et tu nous as montré le premier, le chemin de ton amour. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place à Jean-Paul pour les annonces. J'ai une annonce à faire, je la fais tout de suite. Il y a au fond de la salle des panneaux qui expliquent une pétition, encore une. C'est une pétition qui s'appelle Exposed 2013. Le nom est un petit peu particulier, mais c'est la suite de Défi Miché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a vu des informations par rapport à un travail qui était fait. Donc, c'est une campagne qui est faite pour lutter contre la corruption. J'ai imprimé quelques informations que je mettrai aussi au fond de la salle. Exposé de 2013 veut affirmer que la corruption est un obstacle majeur au développement économique et social et qu'elle a un impact particulièrement important sur les pauvres. Je ne vous en dis pas plus, l'heure a déjà bien tourné, donc il y a quelques petits feuillets. C'est une initiative qui nous a été communiquée par le biais de la pastorale, donc qui a aussi tourné dans les autres églises évangéliques du Pays de Gex. Voilà, merci.
Merci Philippe pour ce message. Merci au groupe Louange pour ce temps béni aussi passé autour de la parole. J'aimerais partager avec vous moi les annonces concernant la vie de l'Église, les annonces de la semaine, les activités de la semaine. Lundi, 14h, Femme Club chez Rebecca Emmanuel. Lundi, 19h30, Conseil d'anciens ici, aussi un sujet de prière. Mardi, étude biblique. On continue l'étude de la reconstruction des murailles de Jérusalem dans le livre de Néhémie. Jeudi, chorale, 20h30. Ce n'est pas trop tard pour vous joindre encore à la chorale, si vous le souhaitez. Jeudi, 20h30 ici. Samedi, groupe d'ados. Samedi, groupe de jeunes aussi. Et dimanche, notre culte ici. J'oublie rien pour cette semaine. Alors, c'est...
Groupe d'ados à 15h.
15h, oui.
C'est...
Ah, alors c'est... Ça, c'est 15h, c'est juste sur le site. Hein. Moi, j'ai la photocopie du site. La 15h, c'est juste sur le site. 15h et puis le... D'accord, groupe de jeunes. Okay, merci de rectifier, en tout cas. J'aimerais vous donner des nouvelles de Didier. Dimanche passé, les infos étaient à la fois floues, rapides. Ce n'est pas toujours facile non plus de faire les annonces sur la base des infos qu'on a eues. Les infos étaient inquiétantes dimanche, mais elles correspondaient à la situation actuelle du dimanche. Donc elles étaient justes, je voudrais le dire quand même. Didier dimanche n'était pas bien du tout après l'AVC qu'il a eu lors de son opération. Et puis, Didier m'a demandé de vous dire la chose suivante. Lundi, je l'ai eu au téléphone. Il m'a demandé de vous dire, tu diras aux frères et sœurs de l'Église que vos prières, ce n'est pas du vent. Vous savez, quand vous venez d'être dans une opération je n'ai jamais été dans ce cas-là, mais où on a dû interrompre l'opération pour un AVC qui a eu en cours de route, et puis que vous êtes bien le lendemain, parce que tout est parti. C'est comme ça que Didier me l'a exprimé. Alors, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Donc, tout est rentré dans l'ordre au point de vue du physique de Didier. Il est rentré à la maison cette fin de semaine. Il est chez lui. Et puis, moi, j'aimerais dire, on a parlé de promesse ce matin, mais il y a la promesse, je serai avec toi tous les jours. Et cette promesse, Didier, elle a vécu cette semaine. Alors, moi, je vous propose une chose très simple. On a parlé de prière et on nous a parlé de mettre Dieu au défi aussi. Et je vous invite cette semaine à prier pour Didier dans les deux semaines qui viennent, spécialement jusqu'au 14. Pourquoi ? Parce que Didier doit retourner le 14. De retourner pour qu'ils décident avec les chirurgiens qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque l'opération n'a pas été terminée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le lundi, il m'a dit, je ne veux pas me faire réopérer. Puis hier, il commence déjà, cette semaine, à dire, est-ce que j'ai une autre solution ? Et il a besoin d'avoir vraiment, de sentir la volonté de Dieu. Et je crois que là, on a nous un travail à faire. On a nous tous un travail à faire. Alors je vous invite à vraiment prier pour Didier, pour Loredane, pour que dans les deux semaines qui viennent, jusqu'au 14, ils trouvent auprès de Dieu cette réponse, pour que Dieu guide aussi les chirurgiens. Le 14, il y a un rendez-vous qui a déjà été pris avec les chirurgiens pour la suite, avec un gros point d'interrogation. Donc voilà, les chirurgiens vont apporter aussi leur côté médical, et puis il y a la réponse aussi que Dieu attend. Donc c'est vraiment un challenge pour nous, et on doit entourer Didier de ce côté-là, et c'est comme... La libéralité, c'est à faire avec joie et avec confiance. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. On veut penser à d'autres frères et sœurs aussi qui sont souffrants. Pensez à Liliane aussi, qui se remet après une chute et des fractures des côtes aussi. Pensez à Abel, qui a été opéré aussi, et qui se remet aussi. Pensez à Fernande, qui est là tous les dimanches, et puis qui a de plus en plus de mal aussi. Pensez à tous nos frères et sœurs qui sont âgés aussi, et aux autres qui sont plus jeunes et qui souffrent dans leur santé aussi. Voilà, ça nous fait aussi un bon temps à passer dans la prière pour ça. Et ça laisse l'important aussi de se joindre aux cellules de prière ou à la réunion de prière de l'Église. Voilà, j'ai encore deux autres annonces à vous faire. Concernant la fête de Noël, il y aura dimanche prochain ici un panneau pour s'inscrire pour différentes choses. C'est une fête qui va avoir lieu, vous savez, de bonne heure. On dit fête de Noël, mais on ne va plus dire fête de Noël, c'est la fête de l'Avent. Puisqu'elle est avant Noël, on a appelé la fête de l'Avent, nous. Hein. D'accord ? Donc, cette fête, il y aura un repas, vous pouvez inviter des personnes, mais on aura besoin de savoir combien de personnes vous pensez être au total. Vous êtes deux chez vous, vous invitez quatre personnes, vous marquerez six sur le panneau. C'est dans ce sens-là, pour savoir, pour un peu prévoir. Et puis, on aura besoin aussi que vous engagiez pour donner du temps pendant la fête, au moment du repas, pour tout ce qui est le service et toutes ces choses-là, et après, pour la vaisselle et tout le rangement qu'il y aura à faire. Donc ça, on vous le mettra à partir de la semaine prochaine. La deuxième chose, c'est la banque alimentaire. Ça tombe le même week-end. Vous savez que c'est un petit peu compliqué. On a décidé avec la pastorale du Pays de Gex de prendre quand même en charge le carrefour Sony et le carrefour de la poterie à Ferney. Donc il y a une personne responsable pour chaque jour. On vous invite à vous inscrire. Et puisqu'on a notre fête le samedi, inscrivez-vous pour le vendredi, trouvez une heure, deux heures le vendredi pour venir donner un coup de main pour la banque alimentaire. Ça serait super sympa. On a besoin de s'engager soit à Ferney, soit à Cessy. Je vous ai mis sur le panneau banque alimentaire qui est au fond, il y a des petits coupons où il y a des liens d'Odel où vous pouvez vous inscrire directement. J'ai fait des petits. Vous prenez, il y a une petite pince, vous prenez un petit coupon, vous vous inscrivez dessus pour le vendredi. Si vous voulez pour le samedi, si vous n'êtes pas pris le samedi matin pour la mise en place de la salle ou pour d'autres choses, inscrivez-vous aussi le samedi, il n'y a pas de problème. Mais on veut surtout s'engager nous, puisqu'on ne veut pas le samedi, le vendredi si on le peut. Donc voilà, pensez à ça, c'est important. C'est aussi quelque chose qu'on demande de faire, c'est du temps mis à part pour aider nos prochains. Voilà. Je suis au bout, moi, de mes annonces. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Alors, je vous invite à vous lever. Et je vous lirai ces passages qu'on a, ce petit passage tout court qu'on a lu dans le livre de Malachie ce matin. Moi, j'aime bien cette idée de mettre Dieu à l'épreuve, de lui demander plus que ce qu'on a besoin pour le bout de notre nez à nous, mais d'aller vers l'autre aussi. Et dans ce livre, et peut-être gardons dans notre cœur cette image, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Recevoir la bénédiction de Dieu au-delà de toute mesure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à lui. Amen.